Alors il y a tout un enseignement dans l'évangile qui s'inscrit là et qu'il faut lire au rythme de la marche. Vous le trouvez dans Saint Luc. Dans Saint Luc, depuis la transfiguration, tout s'inscrit dans le cadre d'une montée à Jérusalem. Et alors, toute une partie de l'enseignement sur la prière et comment est-ce qu'on peut mieux terminer cette journée qu'en n'écoutant plus que lui, Jésus seul, nous parlant de la prière. Alors vous avez au chapitre 10 de Saint Luc. Tenez, je vous lis parce que c'est pour ça qu'on est venu d'abord. Ça s'inscrit dans le paysage. Il y a entre Jéricho et Jérusalem. Il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Nous partons à la charge du culte en esprit, en vérité. Et il dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Puis se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Un légiste se leva pour l'éprouver : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Il lui dit : Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Comment lis-tu ? Celui-ci répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus : Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Alors ici, vous avez la célèbre parabole du bon samaritain. Est-ce que Jésus a inventé la parabole du bon samaritain ?
Oui.
Ah ben, si je vous pose la question, c'est justement pour vous. Mais alors, moi, je crois que Jésus faisait la Bible sur le terrain. Écoutez, c'est pour moi hein, qui est la Bible de Jérusalem qui renvoie ici un récit méconnu du deuxième livre de Chroniques, chapitre 28, verset 9, et si on va aller voir ça, de Chroniques. Bon, Jésus, quand il passait par ici, il avait certainement la Bible dans sa mémoire, dans son cœur, et alors il y a la montée du bon samaritain, là. On nous raconte, c'était au temps d'Akaz. Le livre de Chroniques ne parle pas habituellement du royaume du Nord, mais il a disparu en 722 sous les coups des Assyriens, de Sargon, et puis alors il n'éprouve plus le besoin d'en parler beaucoup, mais avec les exceptions, dont celle-là. Alors, il y a les gens du royaume du Nord qui font une expédition au sud, et puis ils ramènent des prisonniers, du butin, et puis ils se font engueuler par un prophète qui s'appelle Oded. Et alors, ils sont très impressionnés. Et l'armée abandonna les prisonniers et le butin en présence des officiers et de toute l'assemblée. Des hommes qui avaient été nominativement désignés se mirent à réconforter les prisonniers. Prélevant sur le butin, ils habillèrent ceux qui étaient nus. Ils les vêtirent, ils les chaussèrent, ils les nourrirent, ils les désaltérèrent, les abritèrent, puis ils les reconduisirent. Les éclopés montaient sur des ânes et les amenèrent auprès de leurs frères à Jéricho, la ville des palmiers. Puis ils rentrèrent à Samarie. Dans la petite note de la Bible de Jérusalem, le chroniste, d'ordinaire peu favorable au royaume du Nord, manifeste en ce récit sa largeur d'esprit et de cœur. Les Samaritains sont meilleurs que leur culte. Alors qu'en fait Luc
29, 37.
Oui, c'est intéressant de noter ça au passage. Alors, je reprends la lecture de cet ensemble-là de l'évangile qui s'inscrit dans le paysage que nous avons sous les yeux. Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu le vit et passa outre. Mais un samaritain, et les samaritains c'était les derniers à ce moment-là, bon, on ne frayait pas avec eux. Bon, on est très étonné de voir Jésus parler avec une femme samaritaine, elle-même est la première à s'étonner de cela. Jésus marque une désinvolture formidable, il y a une personnalité d'une consistance extraordinaire et par rapport aux préjugés de son temps. On voit un homme libre, qui a des amis partout, je voudrais qu'on circule comme ça, moi. Comme Jésus le faisait. Voyons-le s'adressant au cœur, au nom propre que chaque homme et femme qu'il rencontre, qui est à l'image, à la ressemblance de Dieu, a dans le cœur de Dieu. Et la situation, au fond, était aussi compliquée de son temps que maintenant. Il faudrait essayer de vivre chrétiennement ici. Un samaritain était en voyage, arriva près de lui. Le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, abandonna ses plaies, versant de l'huile, du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier, en disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai. Moi, mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'autre ? Vous voyez comment Jésus retourne le problème. C'est à nous à nous montrer le prochain de l'autre, de l'homme tombé aux mains des brigands. Il dit celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Alors ça s'inscrit dans le paysage. On a cherché dans l'Oadikelt, c'est par là qu'on marche normalement quand on monte de Jéricho à Jérusalem, qu'on descend de Jérusalem à Jéricho. Évidemment pas au fond de l'Oadi, il faudrait des échelles de corde et puis plonger dans l'eau qui reste dans les creux. Mais il y a des petits chemins en corniche. Alors ce paysage d'extra. Alors les routes de Jérusalem à Jéricho ont varié un peu. C'est comme dans les ondes sonores, il y a des nœuds et des ventres. Mais alors il y a un nœud où ça a toujours passé, et c'est là qu'on a cherché, c'est là qu'on a trouvé l'auberge du Bon Samaritain. Vous apercevez là-bas un château, c'est ce qu'on appelle le château rouge. Bon, le terrain est rougeâtre, c'est probablement des dépôts ferrugineux. Mais alors, la légende populaire dit que c'est le sang versé par tous les bandits qui habitent dans ces grottes là, du désert de Juda et puis qui pillent les caravanes. Bon, c'était une légende populaire. Bon. Alors c'est là qu'on a cherché, c'est là qu'on a trouvé l'auberge du Bon Samaritain, du côté de ce château, qu'on appelle aussi le château rouge, d'un château d'époque des croisades. Et Malé Adoumim, ça vient de là, vous vous rappelez? Edom, hein? Chauffeur d'Ama, Adam, Badam, Damo, Ishafer. On a vu ça là, c'est l'assonance autour de... On voit rouge quand on... avec ces assonances là, Edom et Dame. Bon, ça c'est pour le Bon Samaritain. Et tenez, c'est intéressant de dire, je crois que dans la tradition juive, on trouvait des rabbins qui raisonnent comme Jésus. Hein. C'était Hillel, un jour il y a un païen que pour se moquer de lui, il dit, écoute, résume-moi un peu toute la loi là, pendant le temps que tu es capable de te tenir sur une seule jambe. Alors il a dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. Mais je crois qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans le sens positif, pas faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Et je crois que la nouveauté du Nouveau Testament et du Nouveau Commandement n'est pas là. Voyez, et même pour le prochain, on trouverait des juifs à l'esprit très large qui considèrent aussi les étrangers comme des prochains. C'est pas là. Mais le commandement nouveau qui est annoncé dans le Nouveau Testament, c'est aimer comme Dieu nous a aimés. Alors là, ça suppose qu'on contemple le cœur du Christ ouvert sur la croix et puis qu'on médite ce mystère de la Trinité où les personnes n'existent comme relations subsistantes et où tout égoïsme est comme exorcisé et supprimé. Et je crois que là, il y a quelque chose de nouveau du Nouveau Testament. Facilement, on estompe tout cela, mais le commandement nouveau, c'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors à ce moment-là, on puise en Dieu la force d'aimer même ses ennemis. Et on ne la trouve pas ailleurs. Mais je continue. Alors oui, ça s'inscrit dans le pays, on remonte et puis on arrive à Béthanie. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est sa maison à elle. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pour toi, il en faut peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne sera pas enlevée. Béthanie, ça c'est encore un des lieux saints. Il y a une basilique là, très ancienne. Actuellement, c'est disputé par les orthodoxes, par les chrétiens, puis les musulmans sont arrivés. Le tombeau de Lazare est sous une mosquée, entre deux églises, une latine et puis une orthodoxe. Mais Béthanie, je crois que là, on trouve ce paradoxe formidable. C'est là que Jésus se montre le plus humain, peut-être. Il ne préside pas à Jérusalem, il a des amis, il pleure quand il apprend que Lazare est mort. Et puis Marthe et Marie, là, on le voit ici dans la familiarité, l'hospitalité qu'il reçoit à Béthanie. Et puis en même temps, c'est là qu'il fait le plus extraordinaire des miracles de l'Évangile. À Béthanie, là, on est appelé à méditer sur ce paradoxe qui est partout présent dans la vie d'un Dieu tout autre et puis qui est là. D'un Dieu transcendant et immanent, de l'Immanuel. Hein. Elle, le tout autre, immanou. Il est avec nous. Ce mystère de l'incarnation. Et Jésus, c'est son nom. Il y a un nom, on a vu que ça ne veut que c'est important dans la Bible. Béthanie. Et alors, on continue à monter, et la tradition veut que c'est au Mont des Oliviers, là-bas qui domine Jérusalem, au clocher pointu, que Jésus a enseigné le Notre Père. Quand un lieu saint a visité là, un cloître où le Notre Père est traduit en une cinquantaine de langues, il advint, comme il était quelque part à prier, ça ne lui crade pas une occasion de montrer Jésus en prière. Quand il eut cessé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien et remets-nous nos fautes, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit. » Mais ne nous soumets pas à la tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous ayant un ami s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir, et que de l'intérieur l'autre lui réponde, ne me cause pas de tracas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis pas me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Dans cette journée, on évoque Jacob et la lutte avec l'ange. Et puis Jacob qui affronte la face de Dieu et qui affronte son frère Ésaü, et dans un même affrontement qui lui vaut le nom d'Israël. Tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. Et la prière, c'est ça. C'est une religion d'affrontement, notre religion chrétienne. Et on va vers Dieu et vers l'autre. Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Vous voyez, il y a tout un ensemble ici qui s'inscrit dans le paysage. Ça commence, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et ça se termine, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui l'en prie? Nous prions dans l'Esprit Saint. C'est ça la religion, l'Esprit en vérité. Ça ne veut pas dire une religion spirituelle au sens très équivoque que ça a pris dans le langage moderne. Ça veut dire, nous prions avec cet Esprit. On ne sait pas comment prier, dit Saint Paul, mais l'Esprit qui est en nous pousse des gémissements inénarrables. Et alors, l'Esprit de Jésus qui est en nous prie, pour peu qu'on lui en donne la possibilité. Ça évoque aussi le fameux Euphrate, vous savez que Jérémie en attend de son patelin, on le voyait tout à l'heure depuis le palais du roi Hussein là-bas, et maintenant il devait se promener aussi par là, hein. Et il y a une histoire qui se passe dans l'Euphrate, l'histoire de la ceinture. Alors Jérémie qui prend une ceinture pour la plonger dans le fleuve de l'Euphrate à 1000 km, ça paraît un peu bizarre cette histoire-là. Eh bien, il semble bien que l'Ouadi Kelt dans la Bible, c'est le Nahal Perat, tout simplement. Alors on va lire cette histoire pour évoquer Jérémie. On l'a rencontré à d'autres occasions, il joue un grand rôle dans cette recherche du culte en esprit et en vérité. Mais ici, tenez, voilà un récit que le paysage nous invite à lire. Chapitre 13 de Jérémie. « Ainsi me parla le Seigneur. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté une ceinture selon l'ordre de Dieu et je la mis sur mes reins. Une deuxième fois, la parole de Dieu me fut adressée. Prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins. Lève-toi et va à l'Euphrate. » Ah, c'est probablement le Nahal Perat, ici l'Ouadi Kelt, entre Anatote et Jéricho. « Et cache-la dans la fente d'un rocher. » J'allais donc la cacher vers l'Euphrate, comme Dieu me l'avait ordonné. Bien des jours s'étaient écoulés quand Dieu me dit, « Lève-toi, va à l'Euphrate et repose-y la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allais à l'Euphrate, je cherchais, retirais la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Et voici qu'elle était détruite, inutilisable. Alors la parole de Dieu me fut adressée en ces termes, « Ainsi parle le Seigneur, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda, l'immense orgueil de Jérusalem. » Ces gens qui refusent d'écouter mes paroles, qui suivent l'obstination de leur cœur et courent après d'autres dieux pour se prosterner devant eux. Ce peuple deviendra comme une ceinture inutilisable. Car de même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi m'était-je attaché toute la maison d'Israël, toute la maison de Juda, oracle de Dieu, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, mon honneur et ma splendeur, mais elles n'ont pas écouté. Bah, Dieu reste fidèle à son alliance, mais bon sang, il y a de ses crises tout au long de l'histoire, et pourtant il reste fidèle. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Mais alors, on assiste à des... Bah, c'est pas le peuple juif, c'est nous, encore une fois. Hein. C'est complètement idiot d'aller puiser dans ces textes pour accuser un peuple particulier, alors que c'est nous-mêmes qui sommes interpellés. Que d'équivoques, que de théologies néfastes on a pu faire à partir de ces textes contre un peuple, alors que c'est nous qui sommes concernés. Et quand nous regardons la croix, la question c'est pas de savoir qu'est-ce qui est responsable. Nous sommes tous responsables. Il est l'agneau qui porte le péché du monde, le Concile de Trente le disait déjà. Et si, tout le monde est de l'autre côté à ce moment-là, à part la Sainte Vierge et Saint Jean, tout le monde est de l'autre côté. Saint Pierre, il était de l'autre côté, il a renié. Bon, alors tout le monde, elle avait. Et l'Église, quand elle définit le dogme de l'Immaculée Conception, elle dit que c'est par un effet antérieur dont la Sainte Vierge a bénéficié avant sa conception, par le sang du Christ. Mais il y a tout le monde est de l'autre côté. Si bien que même si la Sainte Vierge était au pied de la croix, eh bien elle doit son Immaculée Conception au fait que le Christ a versé son sang sur la croix. C'est bon à rappeler tout ça. Alors ici, nous sommes au plein cœur de la montagne d'Ephraïm. On a pu y accéder grâce à une route stratégique là, qui prend perpendiculairement tous les canyons qui descendent de la ligne de partage des eaux vers la vallée du Jourdain. Là. Une route acrobatique qui a été faite pour desservir des localités qui se trouvent comme ça, dominant la vallée du Jourdain. Si ça vous intéresse, hein, la vie du pays actuellement, on l'appelle la route Alon. Vous avez vu des panneaux par-ci, par-là. Alon est un grand général, contemporain de Dayan, un peu éclipsé par Dayan, que certains considèrent comme ayant vu les choses plus profondément. Et alors, c'était à l'époque, après la guerre des Six Jours, le gouvernement travailliste voyait très bien le problème qui allait se poser, le déséquilibre démographique. Et il sentait très bien qu'annexer la Judée-Samarie, c'était se lancer dans une impasse terrible. Et alors, il empêchait les Juifs de s'installer dans les zones de forte densité de population arabe. Mais par contre, il encourager les implantations ici sur dominant la vallée du Jourdain. Comprenez, on en a marre de faire la guerre, alors faisons une ligne stratégique sur la vallée du Jourdain, facile à défendre, et par ailleurs laissons l'autonomie complète alors, aux populations arabes de la Judée-Samarie, pour prendre la terminologie biblique. Alors cette route, vous voyez, c'est un double impératif. Plus d'armées étrangères en Cisjordanie, on a autre chose à faire que de faire la guerre. Cette ligne qui serpente dans les collines est absolument impossible. Il faut constamment que l'armée vienne à la rescousse de la police, on n'en peut plus. Alors désormais, plus d'armées étrangères en Cisjordanie. Et puis, d'autre part, autonomie totale des populations de Judée-Samarie, des Arabes qui habitent dans ces territoires. Quand on a une culture biblique, on ne peut pas les appeler la Judée-Samarie. Enfin, voilà. Alors on est au cœur de cette montagne d'Ephraïm, on a profité de cette route et on est à un point de vue tellement bien situé qu'on a fait une table d'orientation. Voyez. Alors on voit on va plutôt lire les textes parce que quand on n'est pas sur le terrain, mais ceux qui viennent en Terre Sainte, je t'aurais trop leur conseillé de faire le petit détour. On peut y accéder avec une voiture ordinaire au fond. Voilà. D'abord, ce qu'on voit là-bas, le village, commençons par là, au pied du point culminant de la Samarie, cette haute montagne qui dépasse 1000 mètres là, qu'on appelle le Baal Hatzor. Ceux qui connaissent l'histoire d'Absalom, là, c'est là qu'Absalom s'est vengé. Sa sœur Tamar avait été violée par Amnon, il organisait un grand festin là à l'occasion de la tonte des brebis, et puis il a tué Amnon. Rappelez, c'est raconté dans l'histoire de David. Bon, alors Taïbé s'appelait dans la Bible Ephraim. Marqué, il y a pas mal. Mais là, Ephraim, en hébreu, ça a un sens tout à fait positif. C'est la racine le fruit, la perure. Vous, croissez, multipliez-vous. C'est l'abondance, la fécondité. Mais alors, c'est curieux. La plupart des noms sont restés à travers les siècles. Mais alors, quand les Arabes sont venus ici, ils ont changé chaque fois qu'ils ont rencontré Ophra ou Ephraim, parce que ça évoque quelque chose de plutôt sinistre dans leur langage. Et ils ont transformé dans le contraire. Alors Ephraim est devenu Taïbé. Taïev, ça veut dire bon, comme Tov en hébreu. Alors ça s'appelle Taïbé. Maintenant, c'est un village chrétien. Il y a une église orthodoxe, une église grecque catholique, une église latine catholique, et puis aussi une vieille église byzantine retapée par les croisés, dédiée à Saint Georges. Alors c'est un lieu simple. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, c'est là que Jésus, après la résurrection de Lazare, est parti dans une sorte de retraite, alors qu'on complotait contre lui. Et Je vous dis tout de suite les coordonnées géographiques. Là, Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et il est séjourné avec ses disciples. Et je vous donne le contexte, ça nous replonge dans la ligne principale de notre méditation de cette journée, la recherche du culte en esprit et en vérité. Celui qui complote, là, c'est le grand prêtre Caïphe, en fonction à cette époque-là, et qui fait de la réelle politique. Que faisons-nous, disait-il, cet homme fait beaucoup de signes, si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et ils supprimeront notre Dieu saint en singulier, et notre nation. Caïphe, l'un d'entre eux, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Alors saint Jean dit, il est doué du charisme de prophétie en disant ça. Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Mais c'est le langage du serviteur d'Isaïe. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rassembler les tribus d'Israël. Tu seras ma lumière jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est intéressant au point de vue de... Oh, ce matin, nous sommes partis des charismes. Et l'Église, dans son histoire, au temps du donatisme, je ne sais plus très bien, tu connais ça mieux que moi, c'est plus frais comme souvenir, a très vite été amenée à bien distinguer le charisme avec l'état de grâce. Gratia gratis data, gratia gratum faciens. Il y a des charismes qui sont donnés pour l'utilité commune. Le don des guérisons, le don des langues, des charismes qu'on met au service de l'utilité commune. Mais alors, on ne peut pas juger de l'état de grâce de quelqu'un d'après le charisme. Ça ne veut pas dire qu'il est en accord avec Dieu, qu'il a une vie de sainteté. On doit bien distinguer ces deux choses-là. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à relire saint Paul, vous connaissez tous ce fameux hymne à la charité. Quand je parlerai les langues des hommes, dit-il au chapitre 13 de la première aux Corinthiens, et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un tambour qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens au monde, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On peut faire ça pour la galerie. Jésus dit, vous avez reçu votre récompense. Alors la charité, qu'est-ce que c'est? Elle est indéfinissable. Comme Dieu ne donne pas son nom. Et les théologiens ont beaucoup de mal à la cerner. C'est quelque chose de divin. Et alors on ne peut que la décrire. On rencontre des hommes, des femmes qui ont la charité. Et on dit c'est merveilleux, heureusement que ça existe. Et saint Paul la décrit ici. La charité est longanime, la charité est serviable. Elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas. Elle ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant. Elle ne recherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passe jamais. Dans la mesure où nous avons la charité, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Les langues, elles se tairont. Les prophéties, elles disparaîtront. La science, elle disparaîtra. Partielle notre science, partielle notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel, disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce que nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeure, foi, espérance et charité, ces trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Et la charité, c'est ce sans quoi tout n'est rien. Pour les charismes. Alors, ici, on pourrait passer des heures et des heures. En été, c'est difficile parce que le soleil est implacable, il n'y a pas d'ombre. Mais rien ne nous empêche de nous attarder un peu ici, dans ce point. Et au lieu de faire des kilomètres, des points qui sont maintenant difficiles, il y a du bruit. Ici, on est bien, on est dans le silence, on est dans les fleurs du printemps. Et on a sous les yeux, alors on vient de faire le tour de cette table d'orientation. Tenez, on va commencer par Bethel. Vous voyez Bethel? Là-bas, on voit une petite route qui monte vers Aï, et Aï est Bethel, et vous rappelez que Abraham, c'est là qu'il dresse sa tente pour la première fois en Terre Sainte. Tenez, prenons les choses au commencement. On a parlé d'Abraham, mais on n'a pas tout dit. Alors Dieu le met en route, on ne va pas revenir là-dessus. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. Il partit, et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem. Mais notre Père, dans la foi, il commence par les lieux saints. Vous voyez, la foi purifiant la religion fait même le culte en esprit, en vérité. Et ce lieu saint est assez ambigu. On l'appelle le chêne de Morée, à l'aune Morée. Morée, maintenant, ça veut dire professeur. Mais à cette époque-là, Morée, ça pouvait dire l'augure aussi, le devin. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est un lieu saint, on ne sait pas très bien s'il n'est pas très catholique, comme on dirait aujourd'hui. Abraham va dans les lieux saints, notre Père, dans la foi. C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Abraham bâtit un hôtel. Il passa de là dans la montagne à l'orient de Bethel. Vous voyez, c'est le deuxième des lieux saints. Il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Aï à l'est. On voit très bien Aï, là, terre d'Ibouane, le patelin, et puis Bethel est là derrière. Et on peut dire que toute l'histoire du culte en esprit en vérité se déroule à Sichem, hein, entre le chêne de Morée, où Abraham, pour la première fois, invoque le nom de Dieu, ouais, il dresse un autel, et puis cet entretien où nous allons arriver, de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Alors, il invoqua son nom, puis de campement en campement, Abraham alla au Négev. Il a fait toute la route, nous connaissons déjà toute la route. Alors, il descend en Égypte parce qu'il y a une famine, c'est toujours les mêmes rythmes. Et là, il fait passer sa femme pour sa sœur, vous rappelez, le pharaon s'en aperçoit, pour réparer, alors il comble Abraham et Lot qui l'accompagne de richesses, et c'est comme ça qu'ils reviennent par étapes du Négev, et voilà qu'ils se retrouvent à Bethel. Il dresse sa tente de nouveau entre Bethel et Aï, à l'endroit de l'hôtel qu'il avait érigé précédemment. Et alors, il se passe aussi que Lot et Abraham, du moins leur berger, se disputent. Cette phrase est admirable, il faudrait la souligner. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Plus on en a, moins on a envie de partager. Et l'autre apparaît comme un gêneur potentiel. Et alors, ils décident de se séparer. Et nous rejoignons à tout un bloc d'histoire qu'on a évoqué quand on se baladait du côté de Sodome et Gomorre. Vous vous rappelez encore ? Enfin, Abraham dit, on ne va pas se disputer. On est des frères. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Si tu pars à gauche, j'irai à droite. Alors, d'ici, on voit très bien la vallée du Jourdain. Et on imagine la séparation d'Abraham et de Lot, comment Lot descend dans la vallée du Jourdain, du côté de la mer morte, vers Sodome et Gomorre, et puis comment Abraham, alors lui, continue sur la montagne et puis établit son centre à Mambré, au chêne de Mambré. Pas confondre le chêne de Morée et la chêne de Mambré. Alors, nous connaissons déjà tous les récits qui se passent. Là, on a assez parlé d'Abraham, on va plus revenir sur Abraham.